Iowa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Bonsoir à tous, 17h30 à Abidjan, 18h30 à Bangui. Bienvenue dans cette édition du Monde aujourd'hui. Attaque d'un commissariat par des hommes armés à Abobo, près d'Abidjan. Fin de règne pour José Eduardo Santos en Angola. Son dauphin João Lourenço a prêté serment. Violence en Centrafrique. 23 000 personnes ont fui Bokaranga et Niem dans le nord-ouest du pays. Crise avec la Corée du Nord. Jim Mattis, le secrétaire américain à la Défense, joue la carte de l'apaisement. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Fin de règne pour José Eduardo dos Santos en Angola. Après 38 ans à la tête du pays, le président a passé le relais à son dauphin, João Lourenço. La prestation de serment du troisième chef de l'État angolais s'est tenue à Luanda en présence de plusieurs chefs d'État africains. Les détails avec Morgane Guériac.
José Eduardo dos Santos, 75 ans, à la santé fragile, avait surpris cette année en annonçant qu'il ne briguerait pas un autre mandat. Aujourd'hui, il a passé le relais à un général à la retraite d'une loyauté absolue vis-à-vis du MPLA, le parti au pouvoir. Devant des milliers de supporters et en présence de plusieurs dirigeants africains, dont le Rwandais Paul Kagame et le Sud-Africain Jacob Zuma, João Manuel Gonçalves Lourenço, ancien ministre de la Défense, a juré de se consacrer pleinement aux fonctions qui lui incombent. Âgé de 63 ans, il a fait de la relance de l'économie sa priorité, s'engageant à promouvoir l'emploi et lutter contre la pauvreté. La tâche annonce ardue, la chute des cours du pétrole, qui fournit à l'Angola 70% de ses recettes, a plongé le pays dans une grave crise économique.
En Côte d'Ivoire, des hommes armés ont attaqué un commissariat de police et se sont emparés d'armes dans le quartier populaire d'Abobo, dans le nord d'Abidjan. Il n'y aurait pas de blessés. Ces derniers mois, plusieurs attaques similaires ont eu lieu dans le sud du pays. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Procès de Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale de La Haye. Philippe Mangou, le chef d'état-major de l'armée ivoirienne, a témoigné pour le deuxième jour consécutif. Au plus fort de la crise post-électorale de 2010-2011, il avait conseillé à l'ex-président Laurent Gbagbo de démissionner. Sa résidence privée à Yopougon avait alors été attaquée quelques jours plus tard, ce qu'il attribue à des représailles. Côte d'Ivoire toujours, une nouvelle grève paralyse le plus grand hôpital de Boaké. Cette fois, ce sont des agents de santé, médecins, infirmiers, sages-femmes, qui réclament une prime pour compenser l'augmentation de leur charge de travail générée par la gratuité des soins pour les plus démunis, instaurée par le président Alassane Ouattara. Et puis 15 ans après le naufrage du Djoula au large des côtes sénégalaises, un naufrage qui avait fait 1900 morts, des victimes et leurs proches ont de nouveau réclamé justice aujourd'hui lors de cérémonies organisées à Dakar et à Ziguinchor, d'où était parti le navire. Le ferry qui faisait la navette entre la Casamance, la région sud du Sénégal et la capitale Dakar avait chaviré lors d'une tempête. Seules 64 personnes avaient survécu. Quelques 23 000 personnes ont fui Bokaranga et Niem, deux villes du nord-ouest de la Centrafrique en raison de violences. Et Kiabadou.
Selon le Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires, 15 000 habitants de Bokaranga et 8 000 de Niem se sont réfugiés dans la brousse pour fuir des violences. Samedi, des hommes armés du groupe 3R ont attaqué Bokaranga malgré la présence de casques bleus dans la zone. Pour l'heure, il est difficile de faire un bilan. Le mouvement armé des 3R, apparu fin 2015, prétend protéger la communauté Peul contre les attaques des milices anti-Balaka. La Centrafrique est en proie à des violences continues depuis 2013. Si un calme relatif existe à Bangui, ce n'est pas le cas à l'intérieur du pays. À la mi-septembre, le nombre de réfugiés et de déplacés a atteint son plus haut niveau, avec plus d'un million de personnes qui ont fui leur domicile sur quelque 4,5 millions d'habitants. À la tribune de l'ONU la semaine dernière, le président Faustin Archange Touadéra a appelé la communauté internationale à ne pas oublier la Centrafrique.
Human Rights Watch et Amnesty International appellent à la libération de 9 militants arrêtés en RDC pour avoir manifesté contre le maintien au pouvoir du président Kabila. Pour la seule journée du 31 juillet, la coalition d'ONG a enregistré l'arrestation d'au moins 128 personnes dans 9 villes, dont une dizaine sont poursuivies en justice. Au Kenya, la police a dispersé à l'aide de gaz lacrymogène une manifestation de l'opposition contre la commission électorale de Nairobi. Le point avec Solange Nyamulisa.
Quelques 300 partisans de l'opposition se sont rassemblés près des locaux de la commission électorale, appelant à la démission de son directeur exécutif, Ezra Chiloba. Une centaine de partisans du président Kenyatta sont également venus sur place. Il y a eu des jets de pierre et la police a dispersé manu militari les deux groupes. Un autre rassemblement a eu lieu à Kisumu, bastion de l'opposition dans l'ouest du pays. L'opposition réclame une réforme en profondeur de la commission électorale. Uhuru Kenyatta a exclu toute réforme de cette institution. L'opposant Raila Odinga a annoncé que ces manifestations sont le début d'une campagne pacifique pour exiger la démission de plusieurs responsables de cette commission et un changement de fournisseur du matériel électoral. Une menace de boycotter le scrutin si ces exigences ne sont pas satisfaites. Le 1er septembre, la Cour suprême a invalidé la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta. Une nouvelle élection est prévue le 26 octobre.
Les autorités tchadiennes ont dénoncé une injustice après les nouvelles dispositions du décret migratoire du président Donald Trump. Une décision qui ne reflète pas le niveau de coopération entre les deux pays, selon Abdoulaye Sabré Fadoul, secrétaire général du gouvernement. La Corée du Nord, le Venezuela et le Tchad ont été intégrés dimanche à la liste des pays visés par l'administration Trump, interdisant de façon permanente l'entrée aux États-Unis des ressortissants de ces pays.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Washington veut une solution diplomatique à la crise du nucléaire nord-coréen. C'est ce qu'a assuré Jim Mattis, secrétaire américain à la Défense, un ton d'apaisement alors que Pékin a prévenu qu'il n'y aurait aucun vainqueur à une guerre. Les précisions de John Linden.
La tension est montée d'un cran. Pyongyang accuse Washington de lui avoir déclaré la guerre. Le pays de Kim Jong-un s'est dit prêt à se défendre, promettant d'abattre des bombardiers américains. La Maison-Blanche dément avoir tenu des propos belliqueux. Quelques heures plus tard, à New Delhi, en Inde, James Mattis, patron du Pentagone, précise que le but des États-Unis est de résoudre cette situation de manière diplomatique. C'est un geste d'apaisement en pleine escalade verbale entre M. Trump et Kim Jong-un. La Corée du Nord a procédé à un sixième essai nucléaire et de multiples tirs de missiles qu'elle justifie par la nécessité de se protéger de Washington. Personne ne sortirait vainqueur d'une guerre, a averti la Chine, voisine de la Corée du Nord, dont elle est le principal allié.
Donald Trump a annoncé aujourd'hui qu'il se rendrait le 3 octobre à Porto Rico. Cette île, territoire américain, fait face à une catastrophe humanitaire, selon les autorités locales, avec des inondations et des pluies torrentielles. Monsieur Trump est accusé d'avoir négligé ce territoire américain alors qu'il s'était rendu rapidement au Texas après l'ouragan Harvey. 480 000 musulmans Rohingyas se sont réfugiés au Bangladesh depuis fin août pour fuir les violences en Birmanie. C'est le nouveau décompte des Nations Unies que les Nations Unies ont publié aujourd'hui, un mois après le début de cette crise humanitaire. Fuyant des exactions considérées par l'ONU comme une épuration ethnique, les Rohingyas déferlent au Bangladesh, un des pays les plus pauvres du monde. Et puis coup de théâtre dans le procès de Salah Abdeslam qui va s'ouvrir à Bruxelles le 18 décembre. Le seul survivant des commandos du 13 novembre 2015 à Paris, resté silencieux depuis son arrestation en 2016, eh bien Salah Abdeslam veut assister à son procès en Belgique. Inculpé en France pour assassinat terroriste, M. Abdeslam est le principal suspect des pires attentats jamais survenus sur le sol français. Il est détenu à l'isolement depuis 17 mois à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Jacques Aristide.
Ouverture ce mardi d'un colloque international d'échanges scientifiques sur la NARCADE à Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Pendant 3 jours, les participants venus de 18 pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe partageront les résultats de leurs recherches sur la génétique, les variétés et la qualité de la noix de cajou. Les pays africains présents cherchent notamment à voir comment ils peuvent améliorer la production et la transformation du cajou. Le Fonds monétaire international se dit satisfait des réformes engagées par l'Égypte avant le déblocage dans les prochains mois d'une nouvelle tranche de son prêt de 12 milliards de dollars sur 3 ans. En novembre, le Caire a notamment décidé de laisser flotter sa devise et réduire les subventions d'État. Le programme gouvernemental La Solidarité et Dignité offre un léger soutien financier à près de 2 millions de foyers. Le FMI a déjà versé à l'Égypte 2,75 milliards en novembre et 1,25 milliard en juillet. Le leader mauricien des télécommunications, Mauritius Telecom, ne veut plus se limiter au marché mauricien. La compagnie vient d'annoncer une stratégie africaine qui devra lui permettre d'investir dans des pays du continent. L'opérateur s'en croit capable, surtout après son chiffre d'affaires record de plus de 10 milliards de roupies réalisé l'an dernier. Mauritius Telecom vient également de signer un accord pour l'utilisation d'un nouveau câble sous-marin de fibre optique qui va relier l'île Maurice, la Réunion et l'île Rodrigue à l'Afrique du Sud. Et à l'Inde.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire, bonsoir à vous.
Alors bien sûr du foot en Europe, seconde journée de la Ligue des Champions.
L'armada du Real Madrid, double tenant du titre, se rend sur la pelouse du Borussia Dortmund très en forme. Ce sera ce soir, lors de cette deuxième journée de la Ligue des Champions, qu'il ira également s'affronter Manchester City et Pep Guardiola. Ils recevront les Ukrainiens de Shakhtar Donetsk. Autre rencontre, le FC Séville face à Maribor. A noter aussi Monaco qui accueillera Porto, les monégasques demi-finalistes de la saison dernière, avaient commencé par un nul encourageant sur le terrain de Leipzig. 1-0 Leipzig qui se déplace chez le Beşiktaş à Istanbul en Turquie. Autre rencontre, Liverpool qui se rendra chez les Russes du Spartak Moscou. Naples contre Feyenoord et l'Apoel Nicosie contre Tottenham.
Et demain, d'autres rencontres?
Le Paris Saint-Germain s'est offert Neymar pour franchir un cap en Ligue des Champions. Première réponse demain face au Bayern Munich au Parc des Princes. L'autre choc de cette deuxième journée demain va opposer l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann à Chelsea dans le nouveau stade des Colchoneros, le Wanda Metropolitano, et ses 68 000 places. Parmi les autres rencontres, Manchester United se rend sur la pelouse du CSKA Moscou, la Juventus Turin reçoit l'Olympiakos et le FC Barcelone se déplace chez le Sporting Portugal.
Merci Nicolas.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Hello, hello, I'm your English host, je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait, retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur Ondes Courtes, le samedi et le dimanche à 20h30. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24h sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Le
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Ici, même aux États-Unis, Donald Trump avait promis pendant sa campagne d'expulser des millions d'immigrés clandestins. Le 30 août, une vingtaine de Sénégalais vivant illégalement sur le sol américain ont été expulsés vers Dakar à bord d'un vol charter et sous escorte policière. Combien de Sénégalais vivant aux USA seront touchés par ces déportations ? Iris Fall a eu un entretien exclusif avec Toulinabo Mushengi, ambassadeur des États-Unis au Sénégal.
Nous avons beaucoup de Sénégalais aux États-Unis. Ce n'est pas l'administration Trump. Les lois existaient avant que Trump ne soit élu. Ce que nous sommes en train de faire, c'est d'appliquer les lois d'immigration qui existent. Là, ce n'est pas seulement les Sénégalais. Et chaque fois que quelqu'un qui est hors la loi, suivant nos lois d'immigration, ils sont retenus. On a le droit de parler au juge. Il y a le système de recours. Et une fois que tout ça est épuisé, la personne est priée de quitter le pays. Nous espérons que les gens qui ont des personnes dans cette situation prennent cette loi sérieusement et prennent des précautions pour quitter le pays avant que ce ne soit trop tard. La voie la plus facile, bien sûr, c'est le vol commerciaux. S'il y a des Américains ici qui ne sont pas en règle suivant l'immigration, je leur demande aussi d'essayer de se mettre en ordre ou de quitter le pays.
Progression des mouvements terroristes. Le Sénégal, jusqu'à maintenant, est plus ou moins épargné. Quel type de coopération il y a entre les États-Unis et le Sénégal dans la lutte contre le terrorisme?
Le terrorisme, malheureusement, est devenu un fléau rampant partout au monde. Bien sûr, on peut dire que le Sénégal a été épargné jusqu'à présent, mais nous venons de voir ce qui vient de se passer au Burkina Faso pour la deuxième fois. Nous avons vu ce qui s'est passé en Espagne dernièrement. Les défis transnationaux nécessitent des réponses transnationaux. Aucun pays au monde ne peut combattre le terrorisme seul. Nous tous, nous devons nous serrer les coudes pour combattre ce fléau. Au Sénégal, nous avons des programmes clés pour non seulement travailler sur la formation, mais aussi travailler sur l'équipement et travailler sur la bonne gouvernance. Il y a quelques années, aux États-Unis, nous parlions de 3D, diplomatie, développement et défense. Au niveau de la défense, bien sûr, du côté militaire, du côté sécurité proprement dite, je disais qu'il faut la formation, les équipements, etc. Mais au niveau diplomatie, il faut que la politique du bon voisinage d'abord pour défendre nos frontières. Vous savez que le Sénégal est membre de menace du Conseil de sécurité pour cette année et pour que les pays puissent partager leurs renseignements. Qui parle quoi, qui dit quoi, etc. Qu'est-ce qu'on connaît. Et enfin, le développement, bien sûr, parce qu'un peuple qui a des moyens ne va pas être susceptible à aller vers le côté extrémisme violent. Et un pays qui est développé va pouvoir s'auto-défendre, se lier à d'autres pays qui pensent de la même façon. Et c'est pourquoi cette coopération va continuer. Et ça, c'est une priorité pour nous et c'est une priorité pour le Sénégal.
Toulinabo Mushengi, ambassadeur américain au Sénégal. FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24. Direction la Côte d'Ivoire à présent. Les victimes des déchets toxiques déversés en 2006 par le Probo Kuala se tournent de nouveau vers la justice néerlandaise. Plus de 100 000 victimes vont tenter ce mercredi de convaincre la justice néerlandaise. Elles réclament le jugement et la condamnation de la société affréteuse Trafigura au versement d'indemnités aux victimes. Yacouba Ouédraogo a joint Denis Yao, président de l'association des victimes de Probo Kuala.
Nous demandons simplement réparation. Nous demandons reconnaissance des faits, des crimes contre l'environnement et des crimes contre les populations depuis cette année 2006. Donc nous demandons simplement que le droit soit dit sur la question.
Ce n'est pas la première fois que vous demandez à la justice des Pays-Bas de condamner la société Trafigura à payer des indemnités aux victimes. Vous avez été débouté en 2016 notamment. Quelle est la particularité de cette nouvelle demande ?
Il y a eu deux plaintes qui ont eu un souci de forme. La première plainte parce que simplement les personnes n'avaient pas droit d'ester en justice en Hollande. La seconde a été déboutée parce qu'on estimait que la fondation qui avait engagé l'action ne représenterait pas de façon crédible l'intérêt des victimes. Nous, nos experts, nos avocats avions sérieusement travaillé sur cette dernière. Nous avions pleinement espoir que la justice va valider une poursuite en fond contre le pollueur. Parce que toutes ces questions ont pu être résorbées dans cette troisième action que nous avons engagée.
Est-ce qu'on peut parler des questions justement que vous avez résorbées dans cette troisième action?
Nous avons un procès déterminant demain. Nous souhaitons garder confidentiels nos argumentaires.
En février 2007, la société Trafigura a conclu un accord amiable avec l'État ivoirien qui prévoit l'arrêt des poursuites contre cette société en contrepartie du versement d'une indemnisation de 100 milliards de francs CFA. Pourquoi vous revenez à la charge?
Trafigura a porté atteinte à l'environnement de la Côte d'Ivoire, de la population et particulièrement des personnes qui ont été contaminées individuellement. L'État était en droit de négocier pour les préjudices qu'il a subis, mais l'État ne saurait se substituer individuellement aux préjudices commis à chacun des membres de sa population. Donc aujourd'hui, nous estimons que le juge doit pouvoir rendre recevable cette question afin de juger individuellement cette question de préjudice causé aux personnes vivant en Côte d'Ivoire.
Denis Yao, président de l'association des victimes de Probo Koala, il était joint à Douala.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Après 6 mois de consultations régionales et sectorielles, l'organe technique du Haut Comité des réformes institutionnelles vient de finaliser la relecture de toutes les propositions qui ont été faites par le sous-comité technique. Ce projet de rapport qui vient d'être adopté sera ensuite transmis au Haut Comité, une instance politique d'orientation pour des réformes institutionnelles, pour avis avant que le document ne soit examiné au forum. André Komadjingar.
Une soixantaine de propositions figurent dans ce projet de rapport, entre autres la réduction de moitié du nombre des régions entraînant la suppression des départements et des communautés rurales, la suppression des grandes institutions jugées budgétivores telles que le médiateur de la République, le Conseil économique et le Collège des contrôles des revenus pétroliers. Cependant, 3 regroupements des partis politiques de l'opposition affichent leur couleur dans un communiqué de presse conjoint. Ils ne participeront pas à ce forum qu'ils qualifient de la promesse électorale du candidat Déby. Dimé Clément Bagao, président du Parti démocratique du peuple tchadien, l'un des candidats malheureux à la dernière élection présidentielle et membre du dit regroupement, a déclaré qu'il ne va pas faire une politique de la chaise vide alors que son porte-parole adjoint a contresigné le document en rejetant la tenue du forum.
Nous ne sommes pas venus pour simplement valider. Nous sommes là pour apporter notre contribution. Mes anciens amis, ils étaient là, on avait rédigé un référendum dans lequel on demandait des réformes. Aujourd'hui, les réformes qui se font, ça prend en partie quelques-unes de nos préoccupations et nous avons dit, il faudrait qu'on observe, voir est-ce qu'effectivement il y a une volonté de traduire dans les faits les réformes annoncées. Nous ne sommes pas venus simplement pour avaler les couleuvres restées. Ça, nous mettions quiconque au défi.
Sur le plan judiciaire, il a été proposé la réforme profonde de la justice avec la création d'une justice militaire et des cours de répression de crimes économiques et financiers. Là aussi, 2 syndicats des magistrats se disent être écartés de toutes les discussions alors que la réforme judiciaire nécessite leur implication. Alors, Akete Sanengar est le président du syndicat des magistrats du Tchad.
On nous a invités à une seule rencontre où il était question de discuter un peu les textes sur le Conseil supérieur de la magistrature. Nous avions les 2 syndicats. On avait relevé les manquements qu'il y a dans le texte là. Parce qu'on a un ancien texte qui était en vigueur normal, un très bon texte d'ailleurs. Mais que pour les besoins de la cause, les gens ont modifié rapidement les dispositions pour l'adapter à leurs besoins. Donner le pouvoir au ministre de sanctionner les magistrats quand il veut, comme il veut. Les gens ont observé qu'on avait été très terminé à changer les choses. Maintenant, ils ont commencé à nous contourner.
Ils demandent incessamment l'arbitrage du président de la République, Idriss Déby Itno.
Mais il est clair que les magistrats ne s'y reconnaîtront pas dans ces textes-là si les gens adoptent tel quel. C'est pourquoi nous avons demandé au chef d'État, il faut qu'il agisse avant qu'il ne soit trop tard. Les gens vont à la va-vite, les textes vont être adoptés et c'est une manière d'assommer une fois pour toute la magistrature tchadienne. Il faut qu'il intervienne en ce moment-là, parce que les gens sont en train d'envoyer la justice entière en prison.
André Kodimadjingar, Ndjamena, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad sur 93.1 FM.
Le oui à l'indépendance devrait l'emporter au référendum organisé hier au Kurdistan irakien. Mais le gouvernement fédéral d'Irak a déjà exclu toute discussion sur la sécession du Kurdistan irakien. La Turquie et l'Irak ont aussi haussé le ton aujourd'hui pour contester la validité de cette consultation, le gouvernement turc brandissant explicitement la menace d'une intervention armée pour étouffer cette initiative dont il redoute l'effet de contagion. Pour une analyse, Jacques Aristide s'est entretenu avec Didier Billon, spécialiste du Moyen-Orient à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques.
Cette large majorité de oui ne veut pas automatiquement dire qu'il y aura tout de suite, immédiatement, proclamation de l'indépendance du Kurdistan. M. Barzani avait très bien expliqué au cours de l'été dernier qu'il irait jusqu'au bout de son processus référendaire, ce qu'il a fait, mais que par ailleurs, cela ne signifiait pas immédiatement la sécession d'avec la République fédérale d'Irak. Donc vous voyez, il y a deux éléments qu'il faut bien distinguer. Ça a pour fonction de conforter les autorités politiques kurdes, incontestablement. Ça a pour fonction de franchir une nouvelle étape dans la voie de l'indépendance. Pour autant, je pense que ce serait aller trop vite en besogne que de considérer que cette indépendance va être proclamée immédiatement, parce qu'il y a beaucoup trop d'obstacles.
Mais la consultation, décision qualifiée d'unilatérale du président du Kurdistan, Massoud Barzani, a déjà fait réagir le gouvernement fédéral irakien qui prépare sa riposte. Faut-il craindre une escalade avec Bagdad ?
Et évidemment oui, il y a une crainte. Alors si, je dis bien si, l'indépendance s'était proclamée, je pense qu'il y aurait malheureusement une intervention militaire qui serait en outre facilitée, si je puis dire, par la position des pays immédiatement voisins de l'Irak, c'est-à-dire la Turquie, dont nous savons qu'elle est contre le processus d'indépendantisation, et l'Iran, dont nous savons qu'elle est aussi contre le processus d'indépendantisation. C'est-à-dire que les Kurdes, en organisant ce référendum, jouent très gros. Ils risquent non seulement une confrontation armée avec Bagdad, mais par ailleurs, ils risquent de se voir attaqués par la Turquie et l'Iran, ou au mieux, mis sous embargo. Donc cette décision est très lourde de conséquences, et je ne suis pas pour ma part certain que les dirigeants kurdes en aient mesuré toutes les conséquences. Nous sommes donc là dans une période de transition dont le dénouement pourrait être dramatique.
Le référendum a également été condamné par les Occidentaux et l'ONU. Est-ce finalement un projet qui fait l'unanimité contre lui ?
Oui, vous avez parfaitement raison, mais il y a aussi une forme d'hypocrisie, notamment de la part des puissances occidentales, parce que les Européens, alors dans leur diversité, mais la France en premier, et puis les États-Unis, pendant toute une époque, ont véritablement favorisé tout ce qui pouvait, en termes de processus, aboutir à l'indépendantisation, notamment depuis 2003, depuis la chute du régime de Saddam Hussein. Donc on est là dans une situation où je crois que les Kurdes d'Irak risquent de se retrouver une nouvelle fois comme trahis par ceux qui les ont soutenus depuis plusieurs années. Ce serait alors une répétition tragique de ce qu'ils ont déjà connu à plusieurs reprises. Je crains fort que les Kurdes d'Irak ne se retrouvent dans cette situation s'ils vont jusqu'au bout de leur processus, c'est-à-dire la proclamation d'un État kurde indépendant.
C'était Didier Billon, directeur adjoint de l'IRIS. Il était joint à Paris. Cette édition, merci de votre fidélité à VOA Afrique, à la mise en onde Michel Joseph, au micro Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, et notre page Facebook, bien sûr. Tout de suite, retrouvez notre émission interactive À votre avis, présentée par John Linden, consacrée aujourd'hui à la corruption et au pot de vin que les familles sont obligées de verser pour sécuriser une place pour leurs enfants. Très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga,
Wayigouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.